Du 31 mai à la fin septembre, le manège du palais Wallenstein accueille une grande exposition consacrée à Jan Křižek. Jan Křižek, artiste tchèque installé en France dans les années 1950, mais dont le nom est un peu tombé dans l'oubli. Un temps classé de manière erronée dans l'art brut, les œuvres de Jan Křižek sont le fruit d'une réflexion spirituelle sur l'art et d'une recherche sur ses origines. Seconde partie du portrait de Jan Křižek par l'historienne de l'art Anna Pravdova, à l'origine d'une monographie et de l'exposition à venir. La rubrique a été préparée par Anna Kubicht.
Culture sans frontières.
Quelles sont un petit peu les recherches de Křižek quand il est en France? Quelles sont ses inspirations? Je crois savoir qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est les arts antiques, c'est-à-dire ça va de l'art grec à l'art sumérien, même à l'art d'Amérique du Sud. Hein.
Ben, il aimait beaucoup, tous les dimanches avec Madame Křižek, ils allaient au Louvre. Et d'après ce que me disait Madame Křižek, ils aimaient beaucoup aller dans la partie antiquité égyptienne. Et il s'intéressait beaucoup à l'art grec, on trouve certaines proximités avec les sculptures aussi des îles de Pâques, etc. En tout cas, il s'intéressait beaucoup à toutes ces civilisations anciennes. Oui, il essayait lui-même, pendant cette période, pendant la guerre, quand il faisait les recherches avec Bostik, ils essayaient de remonter au début. Ils pensaient que chaque époque devait commencer de la même manière, qu'il y avait toujours un début et puis un sommet, un déclin. Et ils pensaient que nous, pendant l'art tchèque ici à l'époque, ou l'art européen, était dans sa période de déclin, et un nouveau début devait commencer. Et pour qu'ils soient prêts pour ce nouveau début, ils essayaient eux-mêmes de remonter aux origines de l'art, entre guillemets, dans leurs recherches, et donc c'est pour ça qu'ils s'intéressaient tous les deux à toutes ces civilisations anciennes, au début de l'art, etc.
C'est une conception quasiment mystique, en fait, de l'art ou de la création.
Avec Křižek, c'était vraiment une approche très, peut-être pas dire mystique, mais spirituelle. En tout cas, il disait lui-même à Bostik, parce que c'était quelque chose de très intime, donc il n'en parlait pas, mais comme je disais, à Bostik, il confiait beaucoup de choses. Il lui écrivait que son œuvre, en fait, c'était une quête spirituelle, qu'il essayait de résoudre un problème, et quand il a eu l'impression qu'il a résolu ce problème, il a arrêté, il a carrément écrit que enfin je suis guéri, je peux maintenant arrêter mon travail artistique.
Puisqu'on parlait justement de cet art antique, j'ai lu dans votre monographie une petite anecdote qui m'a beaucoup plu, en fait, sur les idoles, hein, entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un a retrouvé, enfin que vous m'expliquiez un petit peu plus les circonstances, mais quelqu'un a retrouvé, en fait, les sculptures de Křižek et a cru qu'en fait c'était des idoles préhistoriques.
Oui, c'est quand ils sont descendus donc de Paris dans cette ferme de monsieur et madame Dubénin qui les ont reçus. Il a travaillé, donc il a fait quelques sculptures en pierre, et ces choses-là sont restées parce qu'il ne pouvait pas les amener, il n'avait pas de moyen de les transporter, il les a laissées là-bas. Et les Dubénin, ils étaient en location dans cette ferme, mais au moment où ils voulaient la rendre, beaucoup plus tard, le propriétaire a trouvé ça dans la maison. Il a tout de suite alerté les musées des alentours, etc. Ils ont, dans le journal, est paru un article comme quoi on a retrouvé des anciens, des sculptures préhistoriques, des idoles, etc. Et Křižek a eu beaucoup de mal à faire croire que c'est à lui et à se faire rendre ses œuvres.
C'est une jolie anecdote sur son parcours. Et finalement, c'est assez révélateur d'une certaine manière aussi de la qualité de ce qu'il faisait, hein, d'une certaine façon.
Oui, là, en même temps, ça l'avait pas mal amusé parce qu'il était content, parce que c'est ce qu'il voulait. Qu'il voulait remonter, comme je disais, aux origines de l'art. Mais bon, en même temps, c'est drôle qu'on ne reconnaît pas un travail qui était fait il y a quelques années, d'un travail réellement préhistorique.
Est-ce que les Křižek étaient liés un petit peu avec la communauté tchèque en France, ou pas trop finalement?
Un petit peu, pas beaucoup. Křižek était quelqu'un plutôt solitaire, qui recherchait pas vraiment la communauté tchèque parce qu'elle est tchèque. Mais il était très proche de Toyen à un moment donné. Ils allaient avec elle aux réunions du groupe surréaliste. C'est Toyen qui l'a invité là-bas. Ils s'estimaient beaucoup mutuellement. Ils s'échangeaient des travaux des fois. Et donc, ils voyaient Toyen. Et par exemple, ses époux Dubina les ont plusieurs fois aidés. Donc, quelques personnes, le peintre Pribel qui vivait à Paris et qui c'est lui qui les a présentés au Dubina, etc. Donc, quelques personnes, mais pas beaucoup. Il menait plutôt une vie solitaire.
Alors, un peu plus tard, finalement, ils vont réussir quand même à s'installer de manière un petit peu définitive, mais évidemment, c'est toujours dans des conditions matérielles assez compliquées. Un événement, d'ailleurs, précède cette installation, hein, qui est assez, assez incroyable, si je ne me trompe pas, c'est qu'il va devoir détruire, en fait, ses sculptures, hein, ce qui est quand même un geste incroyable, qui est un geste forcé par les circonstances, mais c'est pour un artiste, ça doit être un crève-cœur énorme. Hein.
Donc ils ont décidé de quitter Paris et de s'installer à la campagne. Ils ont mis longtemps à trouver une maison et ils n'ont pas trouvé avec l'argent qu'ils avaient. Ils avaient un petit peu d'économie, donc ils ont acheté un terrain au milieu de nulle part, en Corrèze, au milieu des forêts. Ils ont construit une petite maison en bois. Et avant ça, Krizek n'avait pas de moyens de transporter ses sculptures et il les avait en dépôt en grande partie dans une galerie, la galerie Craven. Et la galerie Craven l'avait prévenu en plus en même temps qu'elle allait déménager si Krizek pouvait récupérer ses sculptures. Et Krizek est arrivé là-bas avec un marteau. Il a descendu à la cave où il y avait des choses et il a commencé à les casser. Bien sûr, quand le propriétaire a vu ça, il a essayé de le stopper. Il a dit « Vous êtes fous, faites pas ça ». Donc, il y a une part de fatalité, entre guillemets, parce qu'il devait déménager, mais il aurait pu, bien sûr, dire... Il y avait une part de sa fierté aussi, parce qu'il pourrait dire ben, « Écoute, j'ai pas où les mettre, est-ce que tu peux les garder ?» ou je sais pas, il préférait. C'était quelqu'un de très entier, très indépendant, et il voulait devoir rien à personne. Donc il a préféré casser, en plus pour lui, comme je disais, comme il a arrêté la création, c'était que des étapes sur son chemin, il n'avait pas besoin de les garder. Il a décidé... Il en a offert très peu à quelques-uns, justement, à toi et à quelques amis très proches. Il voulait même pas laisser des choses chez des gens à qui il pouvait pas faire vraiment confiance. Et donc, il a préféré détruire et casser.
Alors, vous dites qu'il a arrêté la création. Comment est-ce qu'il arrive à arrêter, justement, de créer? Quand est-ce que ça se passe dans sa vie et pourquoi?
Et ça se passe en 62. Il a l'impression, justement, qu'il a un peu fait le tour de la question qu'il voulait régler par son travail. Il voit aussi que c'est matériellement difficile d'être à Paris. Et il voulait aussi... parce que pratiquement toute la vie parisienne, c'est Madame Krizek qui travaillait, qui gagnait leur vie, même si Krizek vendait de temps en temps. Au début, au foyer d'Avruc, il a réussi à vendre pas mal. Donc on ne peut pas dire qu'il était tout à fait dépendant de sa femme, mais c'est vraiment elle qui, quotidiennement, s'occupait de leur vie matérielle. Elle commençait à être aussi fatiguée, donc je pense que c'est aussi pour elle qu'il a fait ce choix, qu'ils allaient s'installer à la campagne. Lui, il allait s'occuper des abeilles et pour un peu soulager son épouse. Mais c'était aussi justement, il avait l'impression qu'il est arrivé jusqu'au bout là où il pouvait avec son travail et qu'il n'en avait plus besoin maintenant, qu'il continuait à faire ce qu'il appelait la sculpture spéculative, c'est-à-dire dans sa tête il continuait, mais il écrivait à Václav Boshti qu'il n'a plus besoin d'en faire une réalisation matérielle.
Et alors justement, cette fin de vie finalement... ou toute cette suite de vie, cette deuxième partie de vie en Corrèze, comment vivent-ils tous les deux? Est-ce qu'il vraiment il n'a plus jamais créé ou est-ce qu'il a quand même créé un petit peu mais de manière épisodique? Et comment vivent-ils justement dans cette petite maison en bois charmante mais un peu fruste en plein milieu des champs en Corrèze?
Ben, il a vraiment arrêté de créer, simplement de temps en temps. Madame Krizek me disait qu'il prenait un bout de papier, un journal, juste pour voir si sa main marchait encore, et des petits croquis qui brûlaient aussi vite. Et pour ses 50 ans, il savait que Madame Krizek aurait vraiment aimé recevoir une sculpture de lui. Donc il lui a promis une sculpture en bois, mais il a fini seulement, je pense, 10 ans plus tard. Donc il a vraiment eu du mal. Il avait envie de le faire pour elle et parce qu'il savait aussi qu'il lui devait beaucoup, mais il avait beaucoup de mal à se remettre vraiment, à la terminer, à remettre en marche la machine, entre guillemets, etc. Donc il vivait là-bas très modestement, pratiquement en autarcie, cultivait des légumes, il avait des abeilles, ils avaient des lapins. Madame Krizek allait faire des cueillettes saisonnières des fruits dans la région, vendre le miel au marché. De temps en temps, il faisait des échanges. Madame Krizek était une excellente pâtissière et cuisinière. À Paris, elle travaillait dans un salon de thé de renom. Donc les voisins l'ont assez vite appris et ils commandaient à Madame Krizek un gâteau en échange d'autres choses, des œufs, je veux dire, comme ça se passe à la campagne. Oui.
Le troc,
voilà. Mais ils étaient dans leur maison très modeste, longtemps sans électricité, jusqu'au bout sans l'eau courante, avec un puits sur le terrain. Mais il y avait, c'était aussi un choix. Ils ne se sont jamais sentis victimes, entre guillemets, de quelque chose. J'ai parlé avec la sœur aussi de Madame Krizek. Plein de fois, ils leur ont offert des choses, ramené des choses. Les voisins voulaient leur donner un frigo, etc. Ils ont toujours refusé. Ils voulaient vraiment garder le strict nécessaire dont ils avaient besoin. Mais pas de frigo, surtout pas de télé, pas des choses qui ne sont pas indispensables.
Il n'a jamais exprimé l'envie de revenir peut-être en Tchécoslovaquie.
À ma connaissance, non. Mais je ne sais pas, peut-être s'il avait eu la possibilité, il aurait aimé, ça c'est difficile. Par contre, Madame Krizek, elle aurait pu, parce qu'elle a vécu jusqu'à 2010. Et elle avait sa famille ici, mais elle n'a jamais voulu parce qu'elle avait peur, comme son mari était déjà décédé avant elle et était enterré au cimetière de Goul. Elle avait peur, elle voulait... Oui, le plus important pour elle, c'était rester dans la maison construite par son mari parce que pour elle, il était toujours présent là-bas, et être enterrée à côté de lui. Et elle avait peur si elle faisait le voyage jusqu'à Prague et s'il arrivait quelque chose, que personne ne la rapatrierait jusque là-bas. Et c'était un trop grand risque pour elle. Donc, du coup, elle n'est jamais revenue, même après la révolution de Volos.
Pour terminer, on peut parler très vite. Il va y avoir donc une grande exposition à partir de la fin du mois de mai. On peut donner quelques détails sur le lieu, à partir de quand
Donc, l'exposition va commencer le 31 mai à Valchenska Izdarna à Prague. Elle va durer jusqu'à fin septembre. Et dans l'exposition, elle s'appellera Jan Krizek et la scène artistique parisienne des années 50, parce qu'on essaye, bien sûr, modestement, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand même de donner un peu le contexte de son travail. Donc, il y aura aussi quelques œuvres de la céramique, par exemple, de Picasso, quelques dessins de Jean Dubuffet, quelques dessins des peintres autour de Charles Estienne, Jean Descotex et René Duvillier, un petit contexte comme ça. Voilà. Et sinon, il y aura aussi donc, à l'Institut français, avant l'exposition, le 6 mai, une présentation donc, de cette monographie et possibilité de voir un documentaire sur Jan Krizek qui était fait par Martin Rzeźniczek, qui aussi allait souvent et longtemps chez Madame Krizek, qui a eu l'occasion vraiment de l'interroger. C'est elle, dans tout le documentaire, c'est elle qui parle, mais on ne la voit pas. Donc ça donne une force parce que Madame Krizek ne voulait pas apparaître du tout dans le film, mais en même temps, c'est elle qui raconte toute leur vie. Et donc, de voir ce documentaire sur grand écran, etc., c'est vraiment beaucoup mieux que sur une petite télé qui ensuite sera présente dans l'exposition. Donc j'invite ceux qui veulent savoir plus sur Krizek le 6 mai à l'Institut français à 18h.